Les publications ont montré que dans des pays où la consommation de produits cosmétiques est largement inférieure à des pays très développés, le taux de prévalence, c'est-à-dire le pourcentage de personnes déclarant avoir la peau sensible, est bien inférieur. Donc, il y a une preuve.
Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast Beauté et Bien-être. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison. J'espère que vous avez passé de belles vacances et que vous êtes d'attaque pour cette rentrée et cette nouvelle saison de Beauty Toaster qui sera encore riche en invités passionnants. Aujourd'hui d'ailleurs, je reçois un pionnier de la cosmétique clean et de la transparence. Il s'appelle Cyril Télinge et c'est le créateur de Novexpert. Cyril a été le seul à révéler plusieurs secrets bien gardés de la cosmétique au début des années 2000. Il a été le premier à militer pour une cosmétique biodégradable et à s'insurger contre l'utilisation de certains ingrédients nocifs pour la santé et pour la planète. On peut dire qu'il a clairement initié le mouvement actuel. Il a tenté de faire bouger les lignes tout seul et ça a failli lui coûter cher. Et oui, il fut un temps où toute vérité n'était pas bonne à dire dans ce milieu. Cyril nous parle de la jeunesse de Novexpert, des difficultés qu'il a dû affronter parce que sa parole dérangeait, mais également de jeunes cosmétiques et de plein d'autres sujets captivants. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Cyril.
Bonjour Chantal.
Cyril, comment t'es venue l'idée de créer Novexpert ? Peux-tu nous resituer un peu la période ?
Alors d'abord la période, l'idée de créer notre propre marque est née en 2001. Tout le monde se souvient malheureusement aussi de ces dates, hein. Et est né en 2001, puisque auparavant, comme tu le sais, on formulait avec la société BioWare, qui était le leader en France, on formulait pour l'industrie pharmaceutique, donc des produits dermatologiques, et on formulait également pour des marques cosmétiques. On créait jusqu'à 250 formules par an. Ah oui,
ah ouais, c'était de
la recherche industrialisée, si je peux me permettre. Et on travaillait avec la pharma et la cosméto pour près de 70 marques dans le monde.
Ok.
Voilà, donc on était un gros centre de recherche. Et puis tu sais, on fabriquait des formules, mais qu'on n'utiliserait pas pour nous-mêmes.
Genre,
on se disait, on nous demande de fabriquer tel ou tel type de produit. Mais au fond, est-ce qu'on a un réel plaisir à faire ce type de produit ? En fait, on avait de moins en moins. On était de moins en moins, je dirais, en résonance entre les produits pour lesquels nous formulions pour ces marques-là et nos envies personnelles.
D'accord.
Quand quelque chose se scinde, c'est pas top. Alors peut-être qu'aujourd'hui, le grand luxe, c'est d'être en écho total entre ce que l'on est, ce que l'on ressent, ce qu'on voudrait pour soi-même et les produits qu'on fait. Mmh. J'ai l'impression que c'est de plus en plus un luxe aujourd'hui. Ce luxe, nous, on avait toujours cette espérance de l'avoir. Donc, d'abord, ça a été une démarche personnelle et j'ai eu une révélation très loin de la France, comme toujours. Mmh. Les bonnes idées arrivent lorsqu'on se déplace géographiquement et qu'on coupe le rythme de notre travail. Et je l'ai à Okinawa. Donc, une petite île au Japon. Parce que j'adore le surf. Voilà, comme tu le sais, je suis un malade de surf. Et à Okinawa, il y a des spots de surf. Et là, j'ai vu une société assez étrange. Une société où il y avait une sorte d'harmonie qui te touche dès le départ, dès que tu arrives à l'aéroport, en disant, mais qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont sous extasie ou pas ? Ils sont tous, enfin pas d'extasie, mais ils sont hyper zen. Mmh. Et c'est pas une légende. Et en plus, c'est une société qui bat tous les records de longévité, comme on le sait tous. Et là, j'ai commencé à regarder comme un entomologiste, telle une personne qui étudierait des insectes, à étudier cette société-là. Et je me suis dit, mais ces gens-là, ils se posent à la fois des questions essentielles et surtout, ils n'arrêtent jamais de travailler, mais ils travaillent avec plaisir. Et donc, en creux, ça m'a questionné énormément. Et lorsque je suis revenu, j'ai étudié beaucoup, encore une fois, cette île, cette société et tout. Et je me suis dit, ah là, c'est le moment, il va falloir, on est dans la fourchie grecque, là. Il va falloir prendre le bon sillon et travailler. Et donc, j'ai commencé à parler, de se dire, mais au fond, qu'est-ce qu'on aimerait faire, nous, si on devait changer, entre guillemets, notre business model ? Alors, ce qui était drôle, c'est quand j'ai commencé à en parler, tous les scientifiques, enfin une bonne partie des scientifiques dans notre centre de recherche, ont commencé à me dire, mais tu sais Cyril, ce que tu savais pas, c'est que nous, le soir, quand on reste un petit peu au labo, on faisait des produits pour nous-mêmes. Soit les formulations pour nos femmes, enfin pour notre femme, soit les formulations pour nous-mêmes. Et on a commencé à parler de tout ça. Mais alors, qu'est-ce que tu fais comme formule? Et puis l'un faisait des formules parce qu'il avait la peau assez allergique, l'autre pour sa femme parce qu'elle avait acheté un produit très cher dans le commerce où il n'y avait pas grand-chose dedans,
ouais.
En disant, bah non, non, moi je vais te faire une formule très riche en actifs, etc. Et de fil en aiguille, en fait, le concept de Novexpert s'est imposé à nous-mêmes en se disant, bah, on va prendre un petit peu tous les éléments saillants de ce que vous faisiez pour vous-même. Donc des formules quoi ? Bah, pour les peaux très allergiques. Des personnes qui voulaient des formules biodégradables dans le corps, donc naturelles. Et puis d'autres personnes qui ne voulaient faire aucune concession sur l'efficacité. Et là, on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas une marque avec les trois ensemble ? Techniquement,
oui.
Hyper dur, etc. Alors, première étape, on n'avait pas pensé à notre marque. On l'a proposé aux marques pour lesquelles nous formulions.
D'accord.
Voilà. Et alors, la réponse était assez amusante. C'était, ah oui, génial de faire une formule hypoallergénique, 100% naturelle, sans conservateur et avec des hautes concentrations d'actifs. Là, je te pose, le concept de Novexpert. Mais tous m'ont dit, ah, c'est super techniquement, c'est très difficile technologiquement. Mais en plus, au niveau marketing, c'est nul.
Ouais, ça va pas marcher.
Bon, pourquoi ? Ça va pas marcher. Mais pourquoi ? Bah, parce qu'il y a trois idées. Une marque, il faut une idée, il n'en faut pas trois. Et en plus, il faut être un peu connaisseur pour apprécier toutes ces ruptures technologiques qui seraient dans cette marque. Au fond, trop de travail en développement, trop de travail en communication pour expliquer tout, et puis le consommateur n'est pas mûr. Donc, rejeté. Bon, ok. Bah, on va le faire nous-mêmes. Donc, on a commencé en 2001. Alors, ils avaient raison, hein, parce qu'au niveau techno, c'était une horreur. Faire un nouveau système de préservation sans conservateur qui respecte la flore, un truc de dingue. Faire du 100%. Alors, ce n'est pas le but de faire du 100% d'origine naturelle, mais c'est un moyen pour nous d'être biodégradable dans le corps.
C'est ça.
Puisque nous savions avant, puisque nous étions dans la pharma, que lorsqu'on applique une crème, ça se termine dans le sang, le lait maternel. Donc, il fallait que ça soit biodégradable. Et puis tout ça, avec des hautes concentrations d'actifs et des grosses études cliniques en aval. Bah, on a mis 8 ans, puisqu'on a sorti la gamme fin 2008, en pleine crise financière. On avait le sens du tempo. Voilà pour la faire courte, c'était déjà long.
Et donc, ouais, tu n'as pas eu de mal à convaincre les chimistes, ton laboratoire.
Alors, en fait, j'ai eu aucun mal à les convaincre de la pertinence de le faire. En revanche, j'ai eu du mal à les convaincre que technologiquement, cela pouvait être réalisé. Ils ont dit, il faut que ça soit fait, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont la peau sensible, il y aura de plus en plus de personnes qui vont être au courant que lorsqu'on s'applique une crème, ça reste pour une partie dans le métabolisme, à ce qu'on appelle une pénétration systémique, etc. Donc ça, on était convaincus de nécessité de le faire. Là où les chimistes et nos docteurs en biologie, etc., étaient moins convaincus, mais est-ce que c'est faisable, techniquement ? Voilà. Par contre, il y a un autre élément qu'il fallait convaincre, une autre personne, bah, c'était les finances.
Et ouais.
Parce que créer des ruptures technologiques comme ça, ça ne se fait pas en un an et ça ne se fait pas avec 10 000 euros. Mmh. Hein. Pour être très clair, avant même que la marque ait été lancée en 2008, on parle de millions d'euros d'investissement en recherche pure. Je parle bien de millions.
D'accord.
Je ne parle pas de centaines de milliers. Donc c'est du très lourd. Et là, on a eu quelqu'un d'extraordinaire que je peux citer, monsieur Jean-Claude Sirot, qui a été non pas un business angel, mais un angel tout court, en tout cas au début. Parce que vraiment, il fallait avoir la foi pour oser mettre autant d'argent dans un projet à la fois aussi ambitieux, d'une part, mais dont, je dirais, l'issue n'était pas garantie.
Ouais, c'est ça.
Hein, on n'était pas sûr. Mmh. De pouvoir mettre sur le marché une gamme comme ça.
Ouais. Ouais. Et alors, toi, tu as été vraiment un précurseur, parce que quand tu as lancé Novexpert, tu as été le premier à parler de tous ces non-dits de la cosmétique. C'était assez novateur et ça t'a valu quelques ennuis, je crois.
Oui, alors d'abord, il y a eu deux éléments innovants. Le premier élément, c'est d'avoir collecté les publications scientifiques, hein. Dans nos bases de données, on a aujourd'hui près de 3000 publications scientifiques. Et on a dit, bon, Nous, à l'époque, nous travaillons en pharmacie. Et en pharmacie, quand on teste un produit dermatologique, donc qui s'applique sur la peau, hein, ouais, comme un cosmétique, bah en fait, on étudie la vie des molécules actives dans le corps humain, ce qu'on ne fait pas en cosmétique. Et on savait, en pharma, que bah, la molécule active se retrouve dans la circulation sanguine, se retrouve dans les urines, se retrouve même dans le lait maternel que le bébé va boire. Tout ça, nous, on le savait. Mais la cosmétique ne le savait pas ou ne voulait pas le faire savoir. Bon, bref. Donc, on a été les premiers à décrire un peu tous ces phénomènes de pénétration systémique auprès des journalistes.
Oui, je me souviens bien.
Auprès des blabagères, vous en souvenez absolument tous. Oui, tout à fait. Alors, on ne l'a pas fait d'une manière, je dirais, angoissante, parce qu'on a dit à tout le monde, finalement, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, parce que la cosmétique peut pénétrer plus profondément qu'on ne le pensait et donc peut avoir une action plus importante qu'on ne l'imaginait. La démarche était quand même pas négative non plus. En revanche, on disait maintenant que l'on sait cela, peut-être faut-il aborder le développement de formules cosmétiques sous un autre angle en prenant en compte que, bah oui, non seulement ça va dans le corps, mais en plus ça peut rester dans le corps. Donc, on s'est dit, bah, il va falloir donner la priorité à des molécules biodégradables. Et voilà. Alors oui, ça nous a valu des ennuis. Et tu sais qu'on est une société, nous, de chercheurs. Alors, on n'est pas très bon en commercial. On n'est pas très, très bon en communication. Nous, on est des artisans de la science. On aime nos produits, etc. Et on est peut-être un peu des bisounours. Et on s'est aperçu que le monde de business, bah, il est violent.
Ouais.
Il est super violent. Alors, pour être très clair, et je ne veux pas m'étaler dessus, dès le lancement, contrôles fiscaux, inspection du travail, contrôle. Enfin, on n'a eu que des contrôles.
Ouais.
Voilà. Alors, tout s'est bien passé, mais ça nous a pris un temps énorme de répondre à tous ces contrôles. Mais là, franchement, avoir la première année, autant de contrôles la première année, alors qu'il n'y avait pas matière à, puisque tout s'est très bien passé. Mais on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ?
Ouais, c'est ça.
Et on n'a même pas imaginé que ça pouvait être le fait de personnes qui donnaient des coups de fil à des organismes étatiques pour nous contrôler. Non. Bah, en fait, on nous a dit, mais c'est ça qui se passe. Vous êtes un nouvel arrivant sur le marché. Vous dérangez par votre discours. Et voilà. Alors là, vraiment, on est tombé de notre chaise. Donc, on a appris ce que c'est le monde du business.
Ouais.
Voilà, bon, ok. Bon, maintenant, c'est passé, etc. Mais oui. Ah oui, je pourrais en écrire un roman sur cette période-là.
J'imagine, ouais. Vous avez bien essuyé les plâtres.
Ah oui, tout à fait.
Et alors, selon toi, justement, est-ce qu'il existe des ingrédients qui n'ont rien à faire dans les cosmétiques ?
Alors, encore aujourd'hui, je pense que oui. Clairement. Alors, évidemment, maintenant, je prends des pincettes, je fais attention à ce que je peux dire, à ce que je ne peux pas dire. Pour être très honnête, je ne peux pas être à la fois juge, arbitre et joueur. Voilà, je représente une marque cosmétique, d'accord ? Donc, dire que tel actif est mauvais, ce serait dénigrer telle marque qui en comporterait. Donc, je ne vais pas citer les articles parce que Bon, ceci étant dit, moi, je pense que, effectivement, il y a un vrai questionnement sur ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Ça, c'est très clair. Alors, je vais expliciter pour les personnes. Ce sont en fait des actifs qui peuvent avoir une action sur nos hormones. Alors, on pourra toujours nous rétorquer. Oui, mais on applique sur la peau. Bon, certes, on a compris que ça allait dans la circulation sanguine, mais c'est des petites quantités. Oui, sauf que le problème, c'est que les hormones, pour être perturbées, n'ont pas besoin de quantités massives. Et même pire, ça peut être l'inverse. Des publications scientifiques ont clairement montré qu'il n'y a pas de dose entre la quantité des actifs et leur effet, et même l'inverse. Il y a certaines molécules, moins on en met, alors écoutez-moi, moins on en met, plus il y a le défait. C'est-à-dire qu'il peut avoir des doses inversées.
Inversées.
Alors ça, c'est très connu des endocrinologues, mais c'est très peu connu des toxicologues. Deuxième élément, même s'il y a une petite dose, c'est aussi la période de mise en contact. Femme enceinte, grand danger. Puberté, grand danger. Bébé qui boit le lait maternel, grand danger. Donc c'est la fenêtre d'exposition qui peut être très importante. Troisième élément, c'est l'effet cocktail. Plusieurs publications ont montré que dans les perturbateurs endocriniens notamment, vous en avez un, ça n'a pas d'effet, vous en mettez deux ensemble, c'est multiplié par 1000. Donc, au fond, l'effet cocktail est imprévisible.
D'accord.
Voilà. Et puis, dernier élément, c'est la durée de mise en contact. Voilà, on applique un produit, on a une molécule qui est ce qu'on appelle persistante, non biodégradable. Imaginons qu'elle ne soit pas éliminée, et ça arrive, qu'elle se stocke dans l'hypoderme, elle peut rester un mois, six mois. Et ben, la durée d'exposition peut être un facteur aussi qui peut élever la probabilité d'avoir des effets délétères. Donc, clairement, c'est le sujet à la mode qui ne concerne pas que la cosmétique.
Oui, oui, on est d'accord.
Hein, on est d'accord. Oui. Moi, là-dessus, on est très pointu là-dessus. On a fait même des présentations en symposium auprès de dermatologues. On leur dit, on a plus de questions que de réponses. Et aujourd'hui, moi, c'est un sujet qui nous préoccupe. Donc, clairement, cosmétique, comme dans toute activité qui intègre des molécules en contact avec les corps humains, d'ailleurs, que ce soit naturel ou pas.
Hein, oui, oui, parce que, on est d'accord.
Ouais. Il y a un gros questionnement là-dessus. Parce qu'il y a une grande méconnaissance là-dessus et je pense qu'on n'est qu'au début de l'histoire. Voilà. Alors aujourd'hui, je ne vais pas les citer, mais il y a des ingrédients qui sont largement, très, très, très largement suspectés comme étant des, possiblement des perturbateurs endocriniens.
D'accord.
Alors comme en cosmétique, on est en bénéfice-bénéfice, c'est-à-dire qu'on n'est pas un médicament. En médicament, on peut accepter des risques parce qu'on est on soigne des pathologies. En cosmétique, on ne soigne pas des pathologies. Donc, pour moi, il n'est pas question de prendre des risques.
Alors, j'ai lu dans un document de Novexpert que l'on applique 500 molécules différentes sur sa peau chaque jour, et soit 300 kilos de produits tout au long de sa vie. C'est une moyenne.
Oui, alors, c'est une moyenne. Alors, d'abord, tous les chiffres que l'on cite sont soit issus de publications scientifiques, d'accord, ou soit issus de vastes études réalisées. Et ensuite, il y a des calculs qui sont opérés. Alors, parlons des molécules. 500 molécules, en fait, c'est beaucoup plus que ça, parce que si on parle stricto 500 de molécules, rien qu'un parfum, ça peut en contenir une huile essentielle. Bon, nous, on n'a pas d'huile essentielle, mais on va citer le cas d'une huile essentielle. Ça peut contenir jusqu'à des centaines de molécules différentes, rien qu'une huile essentielle.
Ah ouais.
Je parle bien de molécules, donc autant tenir. Voilà, donc les 500 sont très vite dépassés. Un parfum, même un parfum de synthèse, peut détenir minimum 10, 20, 30, 50 molécules différentes. Donc les 500, on voit que quotidiennement, on les attend très très vite. D'accord ? Donc ça, c'est le premier élément. Il y a une étude qui a été faite, financée par le gouvernement français en 2017 sur 20 000 femmes françaises. Alors je vais demander aux auditeurs d'être bien attentifs aux chiffres que je vais énoncer, hein, et on pourra mettre le lien, etc. Cette vaste étude, qui est une première dans le monde, parce que 20 000 femmes françaises, c'est vraiment quelque chose de très sérieux, a révélé les éléments suivants. Une femme française en produit d'hygiène beauté, donc ça va du dentifrice en passant par etc., etc. Quotidiennement, elle utilise 16 produits différents. Une femme enceinte, 18. Voilà. Et il s'est avéré que cette étude fait avec vraiment très précisément que la majorité, à part les solaires, la majorité des produits appliqués quotidiennement le sont dans des quantités largement supérieures aux quantités retenues pour les calculs de toxicologie pour la cosmétique. Donc double surprise.
Ouais.
Beaucoup plus de produits qu'on s'imaginait et chacun des produits en beaucoup plus grande quantité que l'on s'imaginait. Je ne dis pas, je crois que je n'ai pas à susciter l'imaginaire de tous nos auditeurs, qu'est-ce que ça peut faire comme bombe toxicologique à l'arrivée.
Mmh.
Voilà. Même avec que des bons ingrédients, moi, rien que l'effet cocktail,
ouais, c'est ça.
C'est vraiment quelque chose. Donc, et d'ailleurs, c'était la conclusion de cette étude en disant qui stipulait qu'il fallait probablement revoir toutes les règles de toxicologie avant de faire de mettre sur le marché un produit. Voilà.
Ouais.
Là, on est dans le réel. Hein, on n'est pas dans l'angoisse, on est vraiment dans le réel.
Ouais. Et alors, est-ce qu'on peut déduire, en fait, de tous ces chiffres, que les 60% de gens qui déclarent avoir la peau sensible sont en partie victimes de cette surconsommation cosmétique ?
Alors ça, c'est très intéressant parce que là aussi, c'est un élément qui nous passionne, nous, chez Novexpert. Rien que sur les peaux sensibles, on doit avoir 200 publications dont on a fait des synthèses, qu'on a analysées, toujours recherchant les causes et pourquoi les personnes ont la peau sensible. Alors, petit exemple, il se trouve que le pays où le pourcentage de peaux sensibles est le plus élevé est celui où on utilise le plus de cosmétiques. Alors, c'est Je ne dis pas qu'il y a un lien, mais il y a quand même une suspicion ou un faisceau de preuves. Ouais. Et ce pays est la Corée. Le pays du layering, le pays de la surcouche. Ouais, voilà. Ouais. Et cette étude est très récente. Elle a été effectuée en 2018. Voilà. Donc voilà, c'est déjà intéressant de le savoir. Alors, à notre avis, donc, chez nous, on a identifié toutes les causes possibles. Et effectivement, parmi les causes possibles, oui, il y a la surconsommation de cosmétiques. Très clairement, une peau sensible, et c'est une publication qui l'a citée, a 60% de chances de réagir à un produit cosmétique.
Ok.
C'est quand même plus d'une chance sur deux, une peau sensible, plus d'une chance sur deux, elle va prendre un produit cosmétique, elle va avoir une réaction. C'est quand même assez effrayant, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, plus d'une personne sur deux, quels que soient les continents, déclare avoir la peau sensible, même si la définition de la peau sensible n'est pas, d'un point de vue dermatologique, bien établie. Hein, soyons clairs aussi là-dessus. Alors oui, notre position est assez claire. Oui, on pense que la surconsommation de produits cosmétiques ou l'utilisation de produits cosmétiques inadaptés est un des facteurs de cette augmentation. Alors pourquoi nous pouvons dire ça? C'est que les publications ont montré que dans des pays où la consommation de produits cosmétiques est largement inférieure à des pays très développés, le taux de prévalence, c'est-à-dire le pourcentage de personnes déclarant avoir la peau sensible, est bien inférieur. Donc, il y a une preuve, oui. Alors, moi, chez NovExpert, on est une marque un peu étrange, puisqu'on est peut-être l'une des rares marques disant « achetez moins de produits cosmétiques ». On le dit à tout le temps. Alors, notre service commercial, peut-être, pourrait nous faire quelques commentaires, mais non, il est à fond pour, parce que c'est ça qui est super, c'est qu'on dit ce qu'on pense. Et voilà, donc on se dit « achetez moins, mais achetez mieux ». On a toujours été contre l'application de surcouches. Alors, je sais que la grande mode qui vient d'Asie, c'est le layering.
C'était.
Ah oui, bon, d'accord. Moins, hein. Voilà. Ouais, alors, nous, on était ringards. On est ringards et on est devenus à la mode, alors, maintenant. Super. Nous, on a toujours été contre. Vraiment.
Bien sûr.
Toujours été contre. En termes clairs et pour être pratique pour nos auditeurs, je dirais 3 produits cosmétiques par jour. Allez, 4 avec le nettoyant. Basta cosy.
D'accord.
Voilà. Un nettoyant, un sérum et ou une crème, un maquillage et éventuellement un quatrième si on met sérum et crème. Mais c'est vraiment le maximum. 3 serait mieux, 4 est le maximum.
D'ailleurs, toi, tu prônes le jeûne cosmétique.
On est à fond là-dedans, nous.
C'est quoi?
Ouais, alors le jeûne cosmétique, nous, on le prône. Alors, il y a 2 types de jeûne. Soit... Alors, je vais vous raconter une anecdote. On travaille beaucoup avec les dermatologues. Et il y a une pathologie qui augmente beaucoup à partir des personnes qui ont 50 ans, qui est la couperose. Notamment. Ouais. Alors, la couperose augmente assez fortement en ce moment. Aucune explication. Et on travaille avec les dermatologues et certains dermatologues nous disent l'un des éléments thérapeutiques, c'est qu'on demande à nos patients d'arrêter l'application de cosmétiques pendant un mois jusqu'à quasiment ne pas se laver le visage.
D'accord.
Aucun produit.
Ok.
Et une fois sur deux, ça marche.
Ah ouais.
Voilà. C'est-à-dire qu'il y a voilà. Donc, ça, c'est très intéressant. Alors, nous, on prône le jeûne soit intermittent. Alors, le jeûne intermittent, c'est dans la semaine, sauf pour les peaux sèches, qui ont besoin d'une application régulière, on est bien d'accord. C'est dans la semaine, ne pas appliquer soit un jour sur 3 de produits cosmétiques ou un jour sur 2 la nuit, pas de produits cosmétiques.
D'accord.
Ça, c'est le jeûne intermittent.
C'est
léger, c'est pas léger. Mal. Ouais. Moi, je l'applique moi-même. C'est-à-dire que moi, j'applique des produits tous les jours. D'accord. Tous les matins, mais la nuit, un jour sur deux, je n'applique pas de produit. Ou il y a le jeûne complet, parce qu'à un moment, la peau est un peu déréglée, et là, une semaine sans rien, et ça recale un peu la peau.
D'accord. Alors, une semaine sans rien, je veux dire, bon, aujourd'hui, c'est peut-être pas le bon jour, mais s'il y a du soleil, des choses
alors,
comme ça.
Alors voilà, bien entendu, il faut, avec il faut la raisonner pollution, avec le bon sens. On est bien d'accord, on est raisonné avec le bon sens, c'est compliqué. Moi, je préconise ça en vacances, par exemple.
D'accord.
Alors évidemment, en vacances, quand on va sous le soleil, il faut du solaire, il n'y a pas photo, on est bien d'accord. Alors ça peut être 2-3 jours, etc. Mais j'aime bien cette idée de jeûne. Nous, on pratique beaucoup le jeûne aussi nutritionnel chez nous, dans notre société. Donc on a beaucoup étudié là-dessus, etc. Il ne faut quand même pas oublier que le jeûne réveille certaines molécules qui s'appellent notamment les sirtuines. Et les sirtuines sont dans la peau aussi. Donc, cette façon, en fait, ce n'est pas le jeûne qui est bon. Ce n'est pas l'application de cosmétiques qui est bon. C'est l'alternance. C'est ouais. ça qui est bon. En fait, nous, on fait beaucoup, on applique la similarité entre la nutrition et la cosméto. Voilà. C'est toujours être raisonnable. Et être raisonnable, c'est l'alternance. Par exemple, c'est aussi alterner en fonction des saisons.
Oui, aussi. Ça, exactement. Ça, bien sûr. C'est bon sens. Fait,
j'allais le dire. C'est le bon sens. C'est exactement ouais. ça.
Alors, après les conservateurs, est-ce que tu penses que le... Enfin, quel est le prochain, entre guillemets, dossier cosmétique?
Alors parlons des conservateurs, parce que là aussi, c'est un sujet qui nous passionne. Alors, petite révélation aux éditeurs. On s'imagine qu'on met des conservateurs pour éviter que les produits ne se polluent lors de l'utilisation normale par un client, un utilisateur. Bah en fait, je vais apprendre aux utilisateurs que ça, c'est même pas 1% des pollutions. On met surtout des conservateurs pour éviter les pollutions pendant la fabrication. Alors ça, c'est le grand non-dit de la cosmétique, hein, mais ça, je le dis, et je suis très à l'aise, hein, parce que tout le monde le sait, c'est la tarte à la crème dans l'industrie cosmétique. Et oui, c'est-à-dire que nous, on a formulé pour 70 marques, donc on a cette connaissance. Et figurez-vous que le dosage, enfin la concentration de conservateurs était calculée en fonction de plusieurs critères. Premier critère, est-ce que c'est un produit très aqueux, où il y avait beaucoup, une lourde concentration d'eau. Si oui, on élève les conservateurs. Deuxième élément, si le packaging est en contact avec les doigts du consommateur. Si oui, on élève le dosage de conservateurs. Ensuite, c'est la qualité de l'usine cosmétique. C'est-à-dire, si c'est dans une usine pharma, peut se permettre, voilà. Si c'est une usine un peu ancienne, mais qui est correcte, mais qui est un peu ancienne, il vaut mieux augmenter un peu le dosage de conservateurs. Si, par exemple, si le produit, il y a des grosses quantités de produits et que l'utilisateur va l'utiliser pendant 6 mois d'affilée, il vaut mieux un peu plus de conservateurs. Donc, c'est une succession de calculs qui va déboucher sur un pourcentage de conservateurs. Ça,
d'accord,
c'est intéressant à savoir.
Ouais, tout à
c'est
fait.
Pas, on fait un dosage, on va mettre des conservateurs X ou Y en fonction de telle concentration au doigt mouillé. Pas du tout. C'est l'œuvre véritablement d'une analyse du produit et de l'utilisation et de la fabrication du produit. Voilà. Bon, alors pour être très clair, si on veut réduire le dosage de conservateurs, qu'est-ce qu'il faut? Soit on réduit l'activité de l'eau ou la concentration de l'eau, donc ça c'est un peu ce qu'on fait nous, soit on réduit la quantité de produit, voilà, c'est-à-dire au lieu de prendre, je sais pas, du 100 ml pour une crème, on va peut-être prendre du 30 ml ou du 40 ml, bon, pourquoi pas. Au niveau des packaging, on va prendre des packaging pas en contact. Là, on voit que la plupart des marques évoluent dans ce sens-là, avec de plus en plus de pompes, de plus en plus de tubes, de moins en moins de pots. Il y a une évolution comme ça, on le voit bien. Hein. Et puis, si possible, pour certaines, fabriquer dans des normes, alors sinon dans des usines pharma, au moins des usines qui se rapprochent des normes pharma. Alors, chez Novexpert, c'est très clair, nous, on a un niveau, c'est quand nos produits sortent de l'usine, ils sont garantis 0,0% de bactéries. D'accord. Parce qu'il faut savoir aussi que les produits cosmétiques peuvent avoir quelques bactéries, non pathogènes, bien entendu, dans le produit. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème. Mais nous, on s'est établi que notre fabrication doit être tellement propre qu'en sortie d'usine, le produit doit contenir aucune bactérie, fût-elle bonne ou pas bonne, zéro bactérie. Donc d'accord. Ça, c'est un bon thermomètre de la qualité de fabrication. Après, c'est là où on revient un peu au sujet d'avant. Le layering, les surcouches, c'est aussi une surcouche des conservateurs. C'est ça le problème. Alors quand on met une crème, un sérum, une lotion tonique, etc., à la fin, quand on met 10 produits, qu'est-ce que ça veut dire? On peut avoir jusqu'à 10% de conservateurs sur la peau. Et là, c'est too much. Et là, clairement, c'est too much. Donc nous, on n'est pas contre les conservateurs, on est contre l'excès de conservateurs. Et l'excès de conservateurs commence par l'excès de produits cosmétiques. Voilà. Après, si on pouvait réduire, avec un peu les éléments que je vous ai donnés, nous, on a un système qui est assez particulier, qui va empêcher les bactéries, si jamais on met le doigt avec des bactéries pathogènes, dans le produit. Bon, imaginons le cas. La bactérie va plonger dans la crème et va chercher de l'eau pour se multiplier.
Bien sûr.
Nous, on a un système qui va empêcher la bactérie de boire l'eau et qui gélifie l'eau. Et une fois l'eau gélifié, bah, la bactérie va pouvoir bouger dans la crème et mourir très rapidement, faute de boire l'eau gélifiée. Voilà. Donc ça, c'est un système indirect. On a deux brevets là-dessus qui nous permet de conserver, mais sans un système bactéricide classique. Voilà.
Et alors, le cosmétique, la formule cosmétique idéale pour toi, ce serait quoi ?
Alors, bah, nous, on essaye de la faire tous les jours. Ouais, c'est ça. Alors d'abord, c'est une formule qui va accumuler toutes les contraintes. Donc, la cosmétique idéale du client, c'est l'enfer pour le formulateur. Voilà, en creux, hein, soyons clairs. Donc, c'est quoi ? Évidemment, j'imagine qu'à cette question, toutes les marques disent bah, « c'est notre marque, c'est nos produits ». Bah oui. Alors, je vais être un peu plus précis. Je vais prendre des critères un peu objectifs. Nous, la formule idéale, c'est d'abord une formule qui ne doit pas comporter des allergènes, au moins les allergènes qui sont listés par l'Union européenne. Bon, bah, nous, on les a mis de côté. Okay. La formule idéale, c'est une formule qui va ne pas avoir de conservateurs ou des conservateurs très réduits. Bon, ok, bah, voilà. Ça, c'est le premier élément, ouais. Parce qu'on pense aux peaux sensibles, hein, soyons clairs.
Bien sûr.
Hein. Voilà. La formule idéale aussi, c'est celle qui va se rapprocher du pH de la peau. Alors, là aussi, petite révélation, le pH typique qui est en tête chez tout le monde, c'est 5,5. Ben non, le pH moyen de la peau, il n'est pas de 5,5, il est de 4,7. Voilà, ça, il faut le savoir. Ouais. Bon, alors si c'est 5 ou 5,5, ça va bien. Hein, mais un pH de 3, c'est moyen. Et un pH de 7, c'est quand même très moyen. Donc, dans des tranches de pH, pas mal. Je continue. Ensuite, ça va être, on va éviter tout ce qui est suspecté de perturbateurs endocriniens, bien évidemment. On va faire en sorte d'avoir des molécules biodégradables dans le corps. Maintenant, tout le monde le sait, à l'issue de cette interview, que bah oui, ça rentre dans le corps. Alors que ça soit d'origine chimique, il y a des produits de synthèse qui sont biodégradables dans le corps. Nous, on privilégie l'origine naturelle qui est vraiment biodégradable. Donc, on est, nous, 100% d'origine naturelle. Voilà, voilà, ça, on y va là-dedans. Et puis, dernier élément, c'est se faire plaisir en tant que formulateur. Pour le coup, là, c'est pas l'enfer. Et le plaisir du client, c'est de mettre du bel actif à des bonnes concentrations. Point trop, n'en faut, certes, hein, faut pas gaver la peau, mais vraiment ne pas se limiter en termes de coût. Moi, le coût, il doit être dans le produit, pas autour du produit. Il doit pas être dans la com, il doit être dans le produit. Et peut-être que c'était une attitude un petit peu, je dirais, naïve il y a 10 ans de se dire « le consommateur va reconnaître le bon produit, safe à la fois, clean à la fois et à la fois concentré ». Eh bien, aujourd'hui, oui, on pense que le consommateur est de plus en plus consomme-acteur, comme on dit.
Exactement.
À la mode, c'est le même, et qu'il est de plus en plus connaisseur et qu'il a de plus en plus les outils, les applis, le site internet pour se dire « oui, je peux choisir ». Moi, il y a une phrase que j'adore. C'est, il n'est plus question de se dire quelle marque on a acheté, mais pourquoi on a acheté cette marque.
Ouais.
Voilà, et ça, j'adore. Et là, moi, je dis bravo. Et là, je profite, Chantal, de dire merci à ces consommateurs, parce que franchement, Novexpert marche très, très bien. Merci à ces consommateurs connaisseurs qui ont coupé le cordon ombilical entre la pub et le consommateur et qui deviennent de consommateurs passifs à consommateurs actifs, de consommateurs croyants à consommateurs défiants. Mmh. Voilà. Et moi, j'invite les consommateurs à poser beaucoup de questions aux marques. Voilà, poser des questions, challenger les marques. Et franchement, si les marques ne vous répondent pas, eh ben, n'y allez pas.
Bah, du coup, tu dois être. Que penses-tu des indie brands, de ces nouvelles marques qui arrivent et qui sont justement beaucoup sur la transparence,
oui.
Sur le sourcing, etc.
Oui, oui. Alors moi.
Tu dois te sentir moins seul, non ?
Ouais, alors on se sent hyper moins seul. Moi, je suis super content de ça pour plusieurs raisons. D'abord, ça rebat les cartes. Hein, parce que franchement, je trouvais que le marché de la cosmétique, c'était un peu toujours la même chose.
Ça ronronnait.
Alors, il faut le savoir pourquoi ça ronronne. Parce que l'accès au marché, vous savez, pourquoi on voit... Moi, les consommateurs me demandent, mais pourquoi on ne voit pas Novexpert dans tous les points de vente ? Mais oui, mais il faut savoir que d'abord, il n'y a pas de place pour tout le monde sur les étagères. Point numéro un. Deuxième, il faut savoir que ça coûte des fortunes. Et qu'aujourd'hui, beaucoup de points de vente disent « Bon, bah, moi, je préfère prendre des marques qui sont connues. C'est toujours un risque de prendre des marques inconnues. » Je peux le comprendre. Sauf qu'à force de faire ça, ces points de vente vont devenir vite ringardes. Et c'est un peu le cas en ce moment. Ouais. Il y a danger. Donc, les roues tournent. En ce moment, ça, je le sens. Moi, je suis content parce que, un, elles tapent le pied dans la fourmilière. Elles ne sont pas toutes politiquement correctes. Bravo. Eh ben, qu'elles y aillent. Elles sont transparentes. plus ou moins, selon les marques, ouais, elles sont plus ou moins naturelles, mais au moins elles diffusent le message de se dire, eh ben il faut l'être. Très bien. Alors, elles ne sont pas vraiment 100% naturelles, mais elles s'en approchent.
Ouais,
super.
Voilà.
Personne n'est parfait, mais elles diffusent le message. Et moi, ça me plaît beaucoup. Le petit point négatif, c'est qu'il ne faudrait pas que ça soit des marques. Je pense que ça ne l'est pas, mais il ne faudrait pas que... Vous savez, il y a eu la bulle du bio.
Ah oui, oui.
On s'en souvient tous.
Ouais.
Où il y a tous les fonds d'investissement qui sont arrivés, qui ont créé des marques bio. Ils ne savaient même pas ce que c'était. Entre nous, ils s'en foutaient.
C'était le business.
C'était du business pur et tout. Donc là, il ne faudrait pas que ça soit une bulle des marques clean en disant « Ah, c'est la mode des marques clean. On y va à fond la caisse. On va demander à un sous-traitant de nous faire deux petites formules qui vont bien. On ne va pas creuser et basta. » Donc, je dis attention quand même. Parce que je sais que les fonds d'investissement investissent dans ces indie brands. Voilà, donc, il y a parfois des créateurs hyper sincères, bravo, à fond la caisse. Et en plus, on partage avec elles. Nous, on s'est rapprochés de plusieurs de ces indie brands pour travailler en meute. Voilà,
ouais,
et je trouve ça hyper cool.
Ouais, non,
voilà, on
cool.
se dit, bon, allez, t'as du mal à avoir une connexion avec tel point de vente. Nous, on les connaît bien, je te donne le contact, tu m'en donnes un autre. Je trouve ça super.
Ouais, c'est
voilà,
bien.
Agir en meute, avec partageant les mêmes valeurs, etc. Voilà. En revanche, ouais, attention à l'opportunisme business, attention à la bulle. Voilà, il faut que ça soit des vrais
créateurs.
Après,
je pense que ça, c'est le consommateur qui justement
tout à fait.
Tranchera. Hein.
Oui, c'est le consommateur qui va sentir ça, parce que le consommateur, il sent de mieux en mieux, je trouve, vraiment. Ouais.
Alors toi, tu es surfeur.
Hein. Et pas bon surfeur, mais hein, passionné. Je ne suis pas un bon surfeur, mais
toujours
je suis...
Toujours pas
là...
bon.
Oh là là, mais moi, je... tu sais, il y a une phrase qui, d'ailleurs, est une phrase pour les golfeurs, mais que j'applique beaucoup au surf. C'est 10 ans d'espoir, 10 ans de désespoir et 20 ans d'amertume.
Ah ouais.
Voilà, mais parce que le surf... moi, je suis un sportif, j'adore... Et franchement, le surf, c'est le sport le plus difficile. C'est extrêmement difficile, mais c'est plus qu'un sport aussi.
Ouais.
Moi, ça m'a changé ma vie.
Ouais, j'imagine.
Moi, je... voilà. Alors, vas-y, dis-moi,
oui,
Chantal.
Oui. Donc, justement, le problème des plastiques dans l'océan, tu dois forcément y être assez sensible. Comment ça se passe pour Novexpert, justement,
alors,
par rapport aux plastiques
Alors, d'abord, je dirais... S'il n'y avait que les plastiques.
Oui, c'est sûr.
Il y a 2 ans, j'ai surfé au milieu d'un tambour de machine à laver le linge. Voilà, donc c'est pour dire. Et alors, les gens ne le savent pas non plus, mais moi, je surfe régulièrement et je surfe en hiver. Bon, il faut savoir qu'en hiver, les plages rejettent énormément de déchets, mais qu'on ne voit pas l'été. Alors, pourquoi on ne la voit pas l'été? Pour votre information, c'est que les stations de balnéaire financent des bateaux avec des gros filets de pêche pour prendre dans la moyenne mer tous les ordures de grande taille. Et ils financent le matin, parce que moi je surfe très tôt le matin, vers 6-7 heures du matin, des tracteurs qui vont ratisser chaque jour, avant l'été, le sable pour enlever. Donc on ne voit pas tout ça, mais quand on surfe en hiver, on voit tout ça. Et c'est plus que dramatique. Mais c'est plus que dramatique. Alors, très franchement, nous, de ce côté-là, on n'est pas en pointe. Nous, on est très en pointe sur la santé, l'hypo, les peaux sensibles, etc. Et j'annonce qu'on est en train de revoir tous nos packaging. Donc, on va être 100% végétal.
D'accord.
Voilà. On réduit, donc on travaille depuis 6 mois là-dessus avec des audits. Ça, c'est un peu la patte Novexpert. On fait les choses à fond. À fond. Là, on n'était pas en avance dessus. Et on veut reprendre une avance dessus. Et voilà, donc en clair et en étant extrêmement précis, on veut diviser par 2 notre charge de matière. On veut que quasiment tout soit végétal, tout soit recyclable, c'est le cas déjà, mais quasiment biodégradable.
D'accord.
Donc on va passer d'une ambition qu'on a eue moyenne à une très forte ambition avec un lancement fin 2020.
Okay.
Voilà, donc on travaille d'arrache-pied. On travaille d'arrache-pied. Alors, pourquoi on ne l'a pas fait avant? C'est que toutes les alternatives qu'on avait étudiées n'étaient pas sécures en ce qui nous concerne. Par exemple, on avait travaillé beaucoup sur du végétal il y a 2 ans. Et en fait, ce n'était pas totalement, airtight, comme on dit, c'est-à-dire l'air passait un peu à travers et dénaturait certaines molécules, etc. Donc, comme on est très, très regardant sur la stabilité de nos formules, puisqu'on est quand même 100% d'origine naturelle, donc il faut que tout soit testé, dosé, etc. Il nous faut, par exemple, des packaging qui protègent de l'air, de la lumière, etc. Donc, il nous faut du top,
ouais,
quoi, clairement.
Ouais, bien sûr.
Et les alternatives très, très naturelles n'étaient pas là. Bon, il se trouve qu'on n'utilise pas beaucoup de pots, des tubes très petits, etc. Mais là, on va aller beaucoup plus loin. Ouais, d'accord. Donc, on est en plein dedans. On est en plein audit, là, actuellement.
Donc, ma dernière question, c'est sur les projets. Donc, le gros projet, c'est ça?
Ouais, alors, c'est le gros projet. On a un deuxième gros projet, mais qui reste très confidentiel, mais qui va faire que Novexpert va muter beaucoup plus... En fait, on a une ambition très, très grande sur la santé en règle générale, parce que moi je veux que notre marque, et c'est ça, ait du sens. Et voilà, et avoir du sens, c'est pas vendre une petite crème qui va bien, ah ok, c'est 100% d'origine naturelle, c'est hypoallergénique, c'est super, mais nous on va aller beaucoup plus loin. Voilà, okay. On veut faire mieux que bien, on veut même soigner la peau.
Waouh, sacrée voilà. Ambition.
Ouais, on va se rapprocher de la pharma, vraiment.
Ouais. Bah, tu nous tiens au courant. Hein.
Avec grand plaisir et je dis à très bientôt aux auditeurs et surtout qu'ils n'hésitent pas à nous poser des questions, à prendre contact avec nous. On va bientôt, je dirais dans 4-5 mois, faire des journées portes ouvertes. Donc ils sont la bienvenue pour s'inscrire.
Super. Merci beaucoup Cyril.
Merci beaucoup Chantal.
Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, abonnez-vous sur Apple Podcasts et n'hésitez pas à nous laisser un avis et surtout une note. Perso, j'adore les 5 étoiles. Et sachez que maintenant, Beauty Toaster, le podcast, est diffusé sur d'autres plateformes comme Spotify, Google Podcasts, Deezer et toutes les bonnes plateformes de podcast. Pour être informé des nouveaux épisodes, c'est facile. Ils sont annoncés sur le compte Instagram et la page Facebook de Beauty Toaster. Suivez-nous. En attendant, passez une bonne semaine et rendez-vous mercredi prochain à midi.